7h24 minutes. On va faire le point sur des questions de santé publique ce matin et notamment, il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas pourquoi on met sur la glace le sport-études, sauf évidemment dans certains cas plutôt rares. Puis en même temps, on permet des activités sportives à l'extérieur alors que les jeunes vont se mêler, là, si vous me passez l'expression. Avec nous, le Dr Richard Massé, qui est conseiller médical stratégique à la santé publique. Dr Massé, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Expliquez-moi, parce que j'ai de la misère à comprendre, pourquoi on met sur la glace donc des activités de sport, à moins que tous les joueurs soient dans la même classe, donc à l'école, mais que ces jeunes-là, une fois à la maison, peuvent se retrouver dans un club de hockey avec un paquet de jeunes qui viennent d'un peu partout dans ce qu'on appelle le hockey civil. C'est quoi la logique dans ça?
Bon, d'abord, je dois vous dire qu'on est tout à fait favorable à ce que les jeunes aient des activités sportives à l'école comme ailleurs. On pense que c'est important pour leur développement, puis ça fait partie des choses qu'ils doivent apprendre à bien faire, puis l'école peut être un milieu tout à fait approprié pour que ces choses-là puissent se faire avec eux, dans des conditions où est-ce qu'il y a une adaptation à faire, évidemment. Ceci dit, je pense que la décision qui a été prise, c'est d'y aller prudemment, et puis cette décision-là devrait être regardée dans les prochaines semaines à la lumière de comment est-ce que la rentrée se fait, est-ce qu'il y a eu des situations épidémiologiques qu'il faut corriger, mais je pense que la volonté, c'est clairement d'aller vers la possibilité que les jeunes puissent faire du sport en dehors de l'école, en parascolaire, et puis dans du sport-études éventuellement. Mais donc, c'est juste une question de prudence, et puis c'est un peu de temps, mais c'est pas du tout par rejet de cette formule-là, parce que ça nous apparaît important.
OK, mais je veux juste comprendre la logique. Je comprends que vous faites ça, vous dites, pour des raisons de prudence, mais moi, mettons, là, j'ai mon fils qui joue au hockey à l'école. Là, il se fait dire, tu peux pas jouer pour l'instant, on verra dans quelques semaines si tu peux. Mais en même temps, il peut jouer avec d'autres jeunes qui viennent de d'autres écoles, dans une ligue de la ville, par exemple, et revenir dans sa classe le lundi matin. Je comprends pas.
Bien, comment je pourrais vous dire? Moi, je souhaiterais que ces choses-là puissent se faire le plus rapidement possible, mais les choses ne peuvent pas toutes s'organiser en même temps en milieu scolaire. C'est une grosse rentrée, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est beaucoup plus en fonction de la capacité de pouvoir le faire actuellement, correctement, mais c'est pas du tout pour pas une volonté de le faire. Donc, ça a l'air d'une incohérence, mais c'est très temporaire, cette chose-là. Là. C'est quelque chose qui devrait évoluer si tout va bien puis que la rentrée se passe très bien.
Mais il y a un autre bout que je comprends pas, Dr Massé, c'est que vous me dites qu'il faut prendre le temps. Or, il y a plusieurs directeurs d'école, je pense entre autres à Québec, là, où ils se sont fait dire que ça aurait lieu tout l'été puis qu'ils viennent d'apprendre à dernière minute, finalement, qu'ils pourront pas le faire. Il y a déjà des directives, des guides qui sont disponibles pour le hockey qu'on pourrait appliquer également dans les écoles. Habituellement, je vous suis, mais là, je vous suis pas.
Bien, écoutez, je voulais mentionner, nous, on est favorable à ce que ça se fasse, mais le réseau scolaire était peut-être pas prêt partout pour que ça puisse se faire en même temps partout. Donc, il y en a peut-être qui sont prêts. Nous, c'est sûr qu'on pense que les guides puis les façons de procéder pour être sécuritaire sont disponibles. Maintenant, ça devrait se faire bientôt. Je pense que tout ce que je vous invite, c'est à la patience. Je peux pas vous dire plus que ça. Ça devrait être bientôt parce qu'on pense que c'est une chose qui est pertinente, nécessaire, faisable.
OK, mais comment ça marche? Vous faites une recommandation au ministre, c'est ça? Vous dites, par exemple, bon, ben s'ils peuvent pas venir tous de la même classe, on va suspendre l'activité. Ça, c'est la santé publique qui dit ça au ministre.
Bien, nous, on fait des recommandations, mais il y a des enjeux de faisabilité. Dans un réseau, c'est un grand réseau, le réseau scolaire, c'est que les choses ne peuvent pas tout se passer nécessairement exactement au moment où est-ce que nous autres, on le souhaite. S'il y avait un enjeu de protection immédiat, bien évidemment, ce serait la recommandation de la santé publique. Mais si on est dans une situation où est-ce que là, il y a des enjeux de faisabilité, bien, il faut tenir compte de la capacité de pouvoir le faire. Puis la discussion qu'on a eue avec le ministère de l'Éducation, c'est qu'ils n'étaient pas prêts maintenant, mais ça devrait se faire très bientôt. Là. Mais c'est une chose qui je pense qui devrait évoluer rapidement.
OK, mais ce que je comprends, juste pour terminer sur ce sujet-là, vous, si une école est en mesure d'appliquer les directives comme n'importe quel club de hockey ou ligue de hockey, à l'intérieur de l'école, et respecter les règles de santé publique, vous n'avez pas de problème à ce que les jeunes jouent?
Du point de vue de la santé publique, j'ai pas de problème à ce que les choses se fassent dans la bonne façon, puis encore une fois, en tenant compte de toutes les règles de précaution dont vous avez parlé. Ceci dit, là, il appartient au réseau scolaire de voir quand puis comment cette chose-là peut être faite.
OK. Parlons maintenant de façon plus globale. On a le rapport quotidien, on voit le nombre de cas d'hospitalisation, soins intensifs, décès. on peut dire qu'actuellement, la situation est sous contrôle.
Ben oui, on peut dire que la situation est sous contrôle, mais elle est sous surveillance aussi.
Okay.
Parce que on est conscient que la rentrée scolaire, tous les enfants vont être en garderie et puis en milieu éducatif très, très bientôt, ou s'ils n'ont pas été pendant l'été. Donc, c'est sûr que ça, on regarde ça avec beaucoup d'attention et puis on va être prêt à intervenir si jamais il y a la transmission des cas, soit chez des éducatrices, soit chez des professeurs, soit des CDG étudiants ou autres. Donc, on a eu une vaguelette, comme beaucoup de pays ont eu des vaguelettes comme celle-là, mais elle a été rapidement contrôlée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres vaguelettes ou vagues. Donc, c'est sûr que l'arrivée de la saison grippale est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention aussi pour voir s'il n'y aura pas un effet où les deux pourraient arriver en même temps. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie de notre horizon, là.
OK, mais dans la mesure où les Québécois étaient en vacances, dans la mesure où ils se sont déplacés beaucoup, on l'a vu, là, d'une région à l'autre, à peu près tous convaincus que ça n'a pas été tout le monde là, qui respectait à 100% le 2 mètres puis les regroupements. Bref, qu'il y avait là une source de contamination, plusieurs sources de contamination. Le résultat est pas mal.
Oui, le résultat, on peut dire qu'il est pas mal, puis c'est grâce aux Québécois qui ont respecté les consignes. Puis on le voit maintenant, quand on fait les enquêtes, on voit bien que souvent, pas toujours, mais souvent, on se rend compte que les gens ont laissé tomber la garde et ils ont été dans un party, puis là, ils ont fait moins attention, puis etc. Fait que, ou ils sont allés dans une ligue sportive et puis après, ils sont allés prendre une consommation, puis bon. Fait que ça, c'est les situations où est-ce que les gens doivent faire très attention. Les parties familiaux, les situations où est-ce qu'on va consommer et puis aller danser, c'est normal le soir, et puis s'amuser. Mais des fois, là, à ce moment-là, on fait moins attention. Puis on invite les jeunes particulièrement, parce que ceux qu'on a eus cet été, la mini-vaguelette qu'on a eue, là, c'est beaucoup des jeunes. Il y a vraiment eu un changement au niveau des gens qui ont été infectés au cours des dernières semaines. Et puis, donc, je pense qu'il y a un message particulier qui s'adresse à eux. Puis on a d'ailleurs des messages au niveau des médias sociaux pour être capable de les rejoindre puis leur dire, bien, écoutez, lâchez pas, c'est important parce que vous avez peut-être pas énormément de complications, mais les gens à l'entour de vous peuvent avoir des complications sérieuses.
OK. L'autre question, est-ce que vous avez identifié une période, disons, qui, selon ce qui se passe ailleurs, selon les données objectives du climat au Québec, là, quand l'automne va arriver, par exemple, puis les gens vont retourner un peu plus vers l'intérieur, est-ce que pour vous, il y a une période, vous dites, ça, là, il faut qu'on passe cette période-là, c'est peut-être celle qui est la plus à risque.
Oui, c'est ça. Je vous ai mentionné tantôt la période grippale. Nous,
oui.
Traditionnellement, la période grippale, c'est plus de novembre à avril. Ça dépend des années. Là. Ça dure 8 à 12 semaines. Mais en même temps, les précautions que les gens prennent maintenant, ça devrait aider à baisser la transmission au niveau grippal aussi. Mais c'est certainement quelque chose qu'on regarde. Mais si on se compare aux autres pays, si on regarde par exemple en Colombie-Britannique, on voit qu'il y a une résurgence actuellement. Mais si on regarde plus loin un peu en France, on voit qu'il y a une résurgence aussi importante. On a eu l'Espagne qui nous a... Donc, il y a plusieurs pays comme ça. Ils sont pas en période hivernale. Donc, oui, on regarde la période de transmission de l'influenza, mais en même temps, on se rend compte qu'il pourrait avoir des recrudescences de transmission, même pas en période hivernale. Donc, on est très vigilant, on suit les choses de très, très proche.
Quand on regarde, je dirais, médicaments, traitements, vaccins, il y a le côté scientifique, là, puis il y a aussi le côté politique qui semble prendre le dessus. Là. Les Russes nous disent on en a trouvé un. Les Chinois, paraît-il, sont déjà en train de l'administrer à leurs travailleurs de la santé. Le président Trump promet un vaccin pratiquement avant la date de l'élection. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Bon, d'abord, il y a beaucoup de vaccins, je vais appeler ça candidats, donc des études préliminaires pour développer des vaccins, il y en a près de 200. Là. Donc ça, c'est beaucoup, mais par contre, ceux qui sont avancés pour avoir des études qu'on appelle de phase 1, pour voir si le vaccin est sûr et sécure, là, il y en a pas mal moins, on est plus dans l'ordre d'une quarantaine, puis dans ceux qui ont des études de phase 2 et 3, donc ça, c'est des études cliniques avant qu'on puisse dire, ben il est efficace et puis il protège les gens, puis on peut le donner. Là, il y en a très peu. Là, si on pouvait le compter sur en bas des doigts d'une main. Là. Donc, il y en a quelques-uns. Donc, les choses ont avancé quand même rapidement. Si on regarde la vitesse habituelle pour développer des vaccins, c'est très rapide. Ceci dit, on n'aura pas des vaccins demain matin. Puis, avant qu'on administre des vaccins, il va falloir être sûr qu'ils sont sécuritaires, qui sont efficaces et puis qu'on est capable de les produire correctement. Fait que là, il n'y a pas juste de découvrir un vaccin, il y a aussi de le mettre en production puis de le rendre accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de monde sur la planète. Puis il va falloir voir, est-ce qu'on a besoin d'une dose ou deux doses ou des doses de rappel? C'est toutes des choses qu'on n'a pas comme information. Fait que je pense que oui, ces choses ont bien avancé, mais je pense qu'on n'est pas prêt à dire que d'ici les élections américaines, on va injecter un vaccin qui est efficace. En tout cas, j'ai pas cette information-là avec moi.
OK. Non, ça, je pense pas, mais ça veut dire, vous écoutez, c'est pas avant le printemps au minimum, le printemps 21?
Je pense qu'on se prépare même pour être plus longtemps que ça dans la période de surveillance active et puis d'intervention ciblée qu'on est maintenant. Ça peut durer plus longtemps que ça. On pourrait penser plus de l'ordre de minimum un an, mais peut-être deux ans, en tout cas avant que le vaccin soit accessible. Encore une fois, je fais la distinction entre avoir un vaccin et puis être capable de le donner aux gens, puis qu'il soit produit en nombre suffisant, vous comprenez?
OK, mais ce que vous faites en disant ça, là, vous nous préparez à vivre notre nouvelle vie, là, c'est-à-dire avec les restrictions puis les contraintes qu'on a actuellement.
Oui, puis c'est pour ça qu'on essaye de faire les choses sécuritaires, progressives, et puis que le plus proche possible de ce qu'on va être capable de vivre, parce qu'on va devoir, d'après nous, là, vivre avec cette chose-là pendant un certain temps avant qu'on ait un vaccin efficace.
OK, deux questions en terminant. La première, j'ai beaucoup de gens, notamment du milieu scolaire, mais aussi du monde du travail, qui disent, est-ce que le thermomètre, le fait de prendre la température des gens qui entrent, je pense aux écoles, là, il y a un syndicat qui dit que les profs seraient rassurés. Est-ce que pour vous, c'est une bonne façon de détecter le fait qu'on ait quelqu'un qui soit fiévreux avec d'autres symptômes, mais que la fièvre devrait être prise quotidiennement? Mais la température, c'est-à-dire?
Oui, oui. Mais le fait de le prendre, les gens, ben d'abord, les gens vont savoir normalement s'ils font la température parce qu'ils sentent vraiment pas, ils sentent vraiment pas bien, puis à ce moment-là, ils peuvent le voir, mais ils peuvent le prendre chez eux. Puis on n'a pas de problème que les gens le prennent chez eux. Puis quand on met les gens en observation, on leur demande ça, on leur demande de le prendre deux fois par jour parce que justement, c'est un symptôme important qu'on veut surveiller. Ceci dit, il y a des gens qui ont mis en place ou qui veulent mettre en place des systèmes de contrôle de la température à distance, un peu comme on a vu dans des aéroports certains endroits. Oui. Et ça, c'est pas mal moins efficace. Puis pour nous, c'est pas très fiable, ce genre d'appareillage-là. Fait qu'on n'est pas nécessairement favorable à ça parce que ça peut donner une fausse rassurance, d'une part. Puis d'autre part, il y a des gens qui peuvent faire de la température puis prendre des antipyrétiques, là, des médicaments pour baisser la température, pour déjouer ces choses-là. Fait que pour nous, ce genre de choses-là n'est pas nécessairement bon, mais que les gens qui sentent peut-être pas bien, fiévreux ou quoi que ce soit, prennent leur température puis la surveillent, c'est très correct. Là. C'est une très bonne pratique. Il n'y a pas de problème.
OK. Dernière question. Vous allez la trouver bizarre, mais je vous la pose quand même. Quelle sera la recommandation de la santé publique pour l'Halloween?
Ah, Seigneur. L'Halloween, c'est un peu comme les grandes fêtes. Hein. C'est beaucoup de monde, puis on souhaiterait bien que les enfants puissent passer parce que c'est important. Pour nous, moi, j'ai des petits-enfants, puis c'est vraiment important. Ceci dit, je pense que il y aurait des précautions importantes si on voulait passer l'Halloween pour être capable de faire ça correctement, justement pour éviter que ça se passe. Je pense que c'est un risque important. Donc, est-ce qu'on doit interdire l'Halloween? Là, j'ai pas réfléchi à ça, je peux vous le dire, là. Ça m'apparaît une situation qui est risquée. Ça serait triste, là, mais c'est parce qu'il faut garder vraiment 2 mètres en toutes les familles. Puis vous voyez toutes les familles qui circulent dans les rues, là.
Ben, puis qui s'en vont cogner aux portes, puis remarquez qu'ils ont tous des masques, mais...
Oui, mais c'est le problème, c'est qu'ils baissent les masques.
Oui, je le sais.
Ils mangent des bonbons, et puis ils se mêlent entre eux. Ça fait partie du plaisir de la chose, mais ça fait partie du grand risque. Je vais vous avouer que j'aurais tendance à être prudent, mais j'ai pas réfléchi puis discuté avec les gens de mon équipe là-dessus, parce que on sait que c'est des événements qui sont marquants hein, pour les enfants puis pour les adultes aussi.
Je vous dis ça parce qu'on commençait à vendre les bonbons, fait qu'avant d'en acheter, je veux savoir si vous allez autoriser la cueillette.
On va y penser rapidement.
OK, merci Dr. Massé.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Dr. Richard Massé, qui est le conseiller médical stratégique pour la santé publique. Tous les gens de l'équipe ont insisté pour que je pose la question ce matin, puis même des auditeurs concernant l'Halloween. Je comprends que la décision n'est pas prise, la réflexion n'a pas été faite, mais pas certain que ça va être autorisé. Déjà que l'an passé, on l'avait déplacé à cause du mauvais temps, vous vous souvenez. Il est 7h39.